Comme cela a été dit déjà, nous sommes en période estivale, temps de vacances, période de congé annuel, période où on profite pour prendre un peu de temps, pour se détendre, pour reprendre un bouquin qu'on a laissé sur un rayon quelques mois auparavant, reprendre peut-être quelques travaux abandonnés aussi depuis quelques mois. Bref, c'est une période où on gère notre temps un petit peu différemment. Et le temps qui passe sera le thème de mon propos ce matin. Le temps, je pense que vous en êtes bien conscient, c'est certainement notre bien le plus cher. Est-ce que vous vous êtes senti mal à l'aise vis-à-vis du temps qui passe? D'avoir l'impression que vous avez plus de choses à faire que de temps disponible? Alors je vous souhaite la bienvenue dans le monde des humains du 21e siècle. Oui, le temps, c'est ma vie. Et si je malmène le temps, si je le maltraite, je me fais du mal à moi-même également. Si je n'apprends pas à gérer mon temps, je crois que malheureusement, rien ne sera bien géré dans ma vie. J'aimerais vous citer ce texte d'Éphésiens, chapitre 5, verset 15 à 18. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il y a parmi toutes les expressions qui comportent le mot « temps », il y en a une que je crois que nous employons malheureusement sans discernement ou pour masquer certaines vérités. Une expression personnellement dont j'ai appris à avoir horreur. Je la cite « je n'ai pas le temps » parce qu'elle me semble ne pas avoir de sens, en fait. Et je crois que c'est plutôt une expression bien commode, que l'on utilise souvent d'une manière quasi automatique, sans beaucoup de réflexion, lorsque nous sommes sollicités. Rappelons-nous que par pure grâce, Dieu met chaque jour, à la même heure, 1440 minutes à notre disposition. Et c'est la seule chose, je crois, devant laquelle tous les humains sont égaux. Imaginez-vous avoir gagné un jeu concours dont le gain consisterait à vous verser 1440 euros par jour sur votre compte. Vous vivrez bien, en tout cas moi personnellement, avec une telle somme par jour, je vivrais bien. Mais je crois que la comparaison avec le temps s'arrête là. Parce que si vous n'avez dépensé aujourd'hui ou hier que 440 euros, aujourd'hui vous allez retrouver les 1000 euros que vous n'avez pas dépensés hier, plus les 1440 euros qui seront à nouveau crédités. Avec notre compte temps, il n'en va pas de même, et vous le savez. Chaque jour, je repars à zéro. Et aussi, les virements de compte à compte ne sont pas possibles non plus. Je ne peux pas virer 2 heures de mon temps sur le compte de mon voisin pour qu'il en ait 26. Ceci dit, pour que nous comprenions que nous avons la responsabilité de la façon dont nous utilisons ces 1440 minutes que Dieu met à notre disposition chaque jour par pure grâce. Nous avons donc du temps, mais qu'en faisons-nous? Je dois évidemment faire des choix. Et plutôt que de répondre un peu trop vite, je n'ai pas le temps, disons plutôt, je fais le choix de ne pas consacrer de temps à telle ou telle chose. Je pense que ce serait une réponse beaucoup plus honnête. La meilleure gestion de notre temps ne peut se faire, vous le savez bien, qu'à l'écoute du Saint-Esprit, qui est tout à la fois conseil, sagesse, révélation. Quand j'étais en activité professionnelle, j'en ai suivi des formations, des conférences et des séminaires sur la manière de gérer son temps personnel. Rassurez-vous, je ne vous donnerai pas de conseils ce matin, sinon celui de placer votre journée sous la direction du Saint-Esprit en posant le pied par terre chaque matin. Hier, c'est passé. Demain, c'est un billet à ordre, comme on dit dans le billet milieu bancaire ou comptable. Mais aujourd'hui, c'est un cadeau du ciel. Voilà pourquoi aujourd'hui on l'appelle le présent. C'est un cadeau du ciel. Ecclésiaste 11:4 nous dit « Quoi que vous décidiez de faire, faites-le aujourd'hui. » J'ai une autre traduction très personnelle de ce texte qui consiste à dire, et vous l'avez souvent entendu dire, sortir de ma bouche, « Tout ce qui est fait n'est plus à faire. » Le texte d'Éphésiens 5, pardon, nous dit entre autres « racheter le temps ». Le verbe « racheter » a plusieurs sens. J'en retiendrai trois. Racheter signifie récupérer ce qui était perdu. Je vais essayer de me racheter, par exemple. Ça veut dire aussi libérer ce qui était lié. Je pense au rachat, lorsque malheureusement il y avait sur notre bonne vieille terre une mauvaise pratique qui était l'esclavage. Ça veut dire aussi changer pour ce qui est mieux. Je vais racheter une tondeuse à gazon parce que celle que j'ai n'est pas adaptée à ce que j'ai à faire. La solution qui permet de racheter du temps dans notre vie, c'est justement de prendre du temps avec Dieu chaque jour. Proverbe 10, 27 nous rappelle que la crainte de l'Éternel prolonge la vie. Ça ne vous intéresse pas, ça? Je crois sincèrement que vous et moi, nous avons juste le temps pour faire la volonté de Dieu. Il nous faut donc prioriser, organiser notre temps, et pas forcément en fonction des charges de travail qui pourraient se présenter à nous, mais je pense plutôt privilégier nos relations, parce que les besoins se situent là. Il y a 2 ou 3 ans de cela, je ne me souviens pas trop, il y avait eu en tout cas une tempête qui avait fait beaucoup de dégâts dans la forêt landaise, et je me trouvais être là pour quelques jours, au printemps qui a suivi cette catastrophe. Et en voiture, on était en train de rouler sur un chemin à l'intérieur d'une vaste pépinière qui était en train d'être nettoyée de tous ces morceaux d'arbres qui avaient été brisés. Et dans la petite commune où nous étions, nous avions trouvé une auberge, la commune avait placé un panneau à l'intérieur de cette pépinière qui disait ceci. Le meilleur moment pour planter votre arbre, c'était il y a 25 ans. Et la deuxième meilleure occasion, c'est aujourd'hui. Alors il nous faut aussi agir maintenant. Encore une fois, quoi que vous décidiez de faire, faites-le aujourd'hui. Ecclésiaste 11, 4. Alors avec le temps dont nous disposons, il y a un piège, bien sûr. Et cela fait la une de nos actualités journalistiques. C'est d'avoir plus à faire que nous avons de temps pour l'accomplir. Mais aussi d'en avoir conscience et de ne rien faire. Plongeons un instant nos regards dans la vie d'un des personnages les plus aimés et les plus fréquemment cités dans l'Ancien Testament, le prophète Élie. On ne prendra pas le temps de lire, mais je vous invite à le faire dans les jours qui viennent, de lire une partie de son histoire qu'on découvre dans Un Roi, à partir du chapitre 18 et 19, les deux chapitres, 18 et 19. Pendant un délai très court, Élie va avoir ou va s'attacher à un certain nombre de choses. J'ai essayé un petit peu de résumer. Tout d'abord, il est pris à partie par le roi Akab du moment, qui lui reproche d'avoir semé la pagaille en Israël. Alors ça discutaille, Élie défie et accuse à son tour le roi d'être le responsable de la déchéance spirituelle du peuple de Dieu. Élie va provoquer à lui tout seul la bagatelle de 850 prêtres de Baal et d'Astarté qui se réunissent contre lui. Il va s'offrir le luxe de se moquer d'eux. Il va construire à son tour un autel, voir le feu de l'Éternel descendre du ciel pour consumer son offrande. Il va conduire un réveil spirituel de grande ampleur dans tout le peuple d'Israël qui revient vers son Créateur. Il va passer par le fil de l'épée les 850 prêtres dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Il va se réconcilier avec le roi, prophétiser que la pluie absente depuis 3 ans va revenir. Il entame un marathon de prière devant son Dieu au sommet d'une colline pour plaider en faveur de la pluie. Il redescend sur une longue distance, court, je dirais d'une manière surnaturelle, porté par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il va aller plus vite que le roi qui est lancé à fond sur son chariot. Tout cela dans un temps qui semble aller d'une journée à quelques jours. Vous allez me dire, quelle efficacité dans le service, notre ami Élie, n'est-ce pas ? Qui songerait à contester le fait qu'Élie était vraiment, à ce moment particulier, l'envoyé de Dieu. Et pourtant, et vous le découvrirez dans votre lecture de 1 Roi 19, et pourtant, notre Seigneur nous dévoile le drame qui se jouait au même moment dans le cœur du prophète. Il va devenir incapable de maîtriser ses émotions. Il va rentrer dans une terrible dépression. Il va s'apitoyer sur lui-même, il va rejeter ses amis, il va s'isoler. Il va sombrer dans le découragement, dans la peur, et finit par souhaiter même la mort comme solution à ses problèmes. Que lui est-il donc arrivé ? Nous dirons aujourd'hui qu'il était victime d'un épuisement, qu'il s'était laissé totalement consumer à l'intérieur de lui-même par l'envergure de sa tâche, de ses tâches. On appelle ça aujourd'hui un burn-out. Vous avez tous entendu cette expression. Alors en quoi cet exemple d'Élie nous intéresse-t-il aujourd'hui ? En ce qu'il reflète malheureusement un cas très classique d'épuisement émotionnel et physique vécu par beaucoup de gens aujourd'hui, mais aussi par les serviteurs et les servantes de Dieu dans l'Église ou ailleurs. Ce sont dans ces moments les plus sombres que l'Éternel se plaît souvent nous rencontrer. Quand nous sommes arrivés au bout de nous-mêmes, que nous capitulons devant lui, après avoir épuisé toutes nos idées, nos conceptions, nos solutions toutes faites. Si certains d'entre nous sont dans cette situation, sache que Dieu est en contrôle des événements de ta vie. Lui seul a le pouvoir de transformer le mal en bien. Peut-être sera-t-il nécessaire de passer par la repentance. N'oublie pas que la grâce de Dieu couvre toutes tes fautes. En tout cas, il est tout puissant pour faire concourir toutes choses à ton bien, comme Paul nous le rappelle dans Romains 8, 28. Et face à son serviteur Élie découragé, l'Éternel n'aura pas un mot de condamnation, mais plutôt une leçon magistrale pour toutes les générations de croyants à venir. Élie, qui était le serviteur des événements grandioses, mais aussi dramatiques, avait besoin de redécouvrir le goût de son Dieu pour une relation attentionnée, intime, avec chacun de ses enfants, lui compris. Élie avait besoin de retrouver une vie équilibrée, et l'Éternel va prendre soin de lui en lui réapprenant qu'il l'a doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le texte nous raconte que Élie s'endormit. Je pense qu'il en avait vraiment besoin. Et l'Éternel va le laisser se reposer à deux reprises. Je crois que nous aussi, nous avons besoin de respecter les plages de repos nécessaires à notre corps pour lui donner le temps de se renouveler. Le sommeil est essentiel. Et les troubles du sommeil sont souvent l'un des symptômes de l'épuisement dû à une vie tournée vers l'hyperactivité. Élie était au bout. Il ne pouvait plus écouter Dieu. Il avait besoin de s'arrêter pour recevoir à nouveau. Peut-être est-ce le cas pour quelqu'un parmi nous. Et parfois, retrouver notre bon sens, c'est la décision la plus spirituelle qui soit. Notre corps est le vaisseau par lequel nous pouvons servir Dieu. Alors quel avantage aurions-nous à être prématurément stoppés pour ne pas avoir entretenu cette machine si merveilleuse qu'il nous a confiée? L'Éternel devra dire aussi à Élie, « Mange et bois ». Nos corps sont des machines merveilleuses, je le disais, merveilleuses de complexité qui ont besoin d'une alimentation saine et équilibrée. Bref, tout ça pour dire que c'est de notre responsabilité spirituelle que de prendre soin sérieusement de notre meilleur outil de travail, notre corps. Que faisons-nous aujourd'hui concrètement pour entretenir le capital santé que l'Éternel nous a accordé? Dieu avait besoin d'Élie, il avait besoin qu'Élie soit au meilleur de sa forme physique, de sa clairvoyance intellectuelle et spirituelle, pour pouvoir comprendre et recevoir ce qu'il voulait lui révéler. J'ai lu il y a quelques années une petite brochure qui était écrite par un pasteur, et je crois, si je me souviens bien, le titre c'était « Votre pasteur, côté court ». Et ce pasteur avait eu la liberté de mettre par écrit toutes ses souffrances dans le ministère. Et il disait que 3 serviteurs sur 4 reconnaissent avoir une forte période de crise liée à son ministère tous les 5 ans environ. Beaucoup disent se battre au quotidien contre la dépression. Leurs épouses se disent aussi souvent découragées dans leur service. La moitié des serviteurs et de leurs épouses rapportent qu'ils souffrent d'horaires délirants et d'attentes irréelles à leur égard. Mais dans l'actualité journalistique aussi, on entend parler de plus en plus de salariés, qu'ils soient cadres ou non, de mères de famille qui reconnaissent leurs souffrances au travail par des journées infernales et qui malheureusement en finissent par l'ultime, en mettant fin à leur jour. Si nous prenions notre courage à deux mains pour réfléchir à nos choix de vie, pour être plus disponible, par exemple pour soulager mon conjoint, pour soulager celles et ceux qui servent dans mon assemblée, ou pour jouer tout simplement mon rôle de parent mieux que je ne le fais, ou pour décorer cette pièce dont les murs ont soif de colle ou de peinture depuis 10 ans. Je dis courage à deux mains parce qu'il faudra peut-être interpeller votre chef de service, votre patron, pour lui dire « il faut qu'on cause ». Ou dire à votre gamin « tu peux te débrouiller tout seul désormais, à 18 ans tu peux prendre le bus tout seul ». Revoir ton organisation personnelle pour gagner du temps sur le temps. C'est une expression empruntée de l'entreprise que je fréquentais lorsqu'elle a mis les TGV en route. Gagner du temps sur le temps. Utiliser, pourquoi pas, les transports collectifs et avaler quelques dossiers ou un bon bouquin plutôt que de s'énerver derrière son volant dans les bouchons lyonnais. Enfin, bouchons lyonnais, je parle de Fourvière, par exemple. Non, pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y a des gens dans leur gestion du temps qui sont plutôt du matin. Puis vous avez des gens qui sont plutôt du soir. Et puis vous avez des gens qui sont parfaits aux heures des repas. Si tu te trouves dans une course permanente, comme Élie par exemple, Dieu n'en a pas fini avec toi. Et il veut se révéler à toi et ramener son équilibre dans ta vie. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais aussi, il pourrait y avoir des choix pas toujours raisonnables, pas toujours logiques sur le plan humain, et qui pourraient susciter incompréhension, voire moquerie des autres. Par exemple, Noé, qui a choisi de construire un bateau au milieu des terres, un Abraham qui part sans savoir où il va. Ou un Pierre qui abandonne une affaire florissante pour suivre un jeune prédicateur de Nazareth. Ce qui est dommage, c'est que pour arriver à nos buts, à nos objectifs, on va toucher à la part de Dieu. Et on choisit, malheureusement, de consacrer moins de temps à ce Jésus qui pourtant a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Alors remettons donc les pendules spirituelles à l'heure dans notre vie. Inutile de détailler ce qui a besoin d'être recadré, je suis sûr que vous savez de quoi il s'agit pour chacun d'entre vous. Ce qui est également dommage, c'est que peut-être personne ne vous l'a dit. Alors voilà pourquoi ce matin, je m'autorise à aborder ce sujet. Voilà pourquoi aujourd'hui ce texte est l'occasion d'une scène équilibrée, mais néanmoins courageuse, remise en question de nos priorités, mais aussi de nos façons de faire. Il m'est arrivé malheureusement si souvent de voir de chers frères et sœurs qui, pour atteindre leurs objectifs, avaient supprimé en toute bonne conscience leur participation à la réunion de prière, avaient réduit leur temps de communion avec leur Seigneur, ou encore avaient tout simplement revu à la baisse le temps de service consacré à leur Seigneur. L'échec et l'incompréhension seront au bout du chemin. Avant de conclure, je voudrais aussi m'adresser à celles et ceux qui ont le courage d'avouer « j'ai du temps ». Alors parlez-en vite au Seigneur, il va vous dire le reste et vous ne serez pas sourd. Parce qu'à côté de toi, il y a sûrement des gens en souffrance. Je conclus. L'hyperactivité, y compris dans le service du Seigneur, trahit souvent une fuite en avant, un échappatoire pour ne pas affronter les véritables problèmes profonds qui nous effrayent et nous semblent trop douloureux à régler. L'hyperactivité ne fait que masquer nos difficultés. Elle donne l'illusion fragile du « tout va bien ». Il m'arrive maintenant, depuis pas très longtemps, de me retenir parfois et de demander à quelqu'un « comment vas-tu ?» Parce que j'ai peur de la réponse, tout va bien, mais j'ai surtout peur que ça ne soit pas la traduction de la réalité. Alors je crois qu'il y a peut-être manière d'introduire une conversation avec quelqu'un autrement. L'hyperactivité ne règle rien au contraire. Vient toujours le temps où nos forces physiques et émotionnelles nous disent « stop ». Et nous nous retrouvons bloqués dans ce lieu aride que nous n'avions eu de cesse d'éviter. Alors, peut-être pourrions-nous simplement, dans le secret, plier le genou et dire « Seigneur, pardon ». Si souvent, je crois bien faire et je me plante. Aujourd'hui, je décide de reprendre le chemin de ma consécration pour toi. Le chemin de mon engagement personnel, de mon service d'adorateur. Et je te prie de m'aider à ne pas oublier cette leçon. Je veux toujours me souvenir que mon rôle ici-bas est de rechercher ton royaume et ta justice. Je crois qu'en vivant ainsi et en m'occupant de tes affaires, tu t'occuperas très bien des miennes. Amen.